quasiment nerveux. Pas habitué de voir tant de monde que ça. On va remettre ça au Seigneur, d'accord? Seigneur, comme Jonathan nous l'a rappelé, tu nous rassures en nous rappelant que tout est entre tes mains. Seigneur, on a souvent nos idées arrêtées, puis dans notre tête que tu possèdes toutes choses, que tu es le Seigneur de toutes choses, bien, on pense que c'est juste quand ça va bien. Mais Seigneur, tu nous rappelles dans ta parole, même quand ça va mal, ça n'échappe pas du tout à ton plan. Mais pour nous, c'est bien ou mal. Mais Seigneur Dieu, tu possèdes toutes choses. Donc, on vient devant toi, Seigneur, parce que tu es notre Père. Seigneur Jésus, lorsque tu es retourné vers ton Père, tu as dit, « Je retourne vers mon Père et votre Père. » Maintenant, Père, c'est sûr que Jésus retourne vers toi parce qu'il est éternellement ton Fils, dans ce mystère du Fils du Père. Mais Seigneur Dieu, tu dis que tu nous as rachetés et adoptés, et que dorénavant, tu nous traites comme tes enfants. Un Père pourvoit généreusement à la sécurité, à la nourriture, à l'instruction de ses enfants. Alors Seigneur, on se remet entre tes mains afin que tu puisses nous enseigner cet événement qui était vraiment un peu spécial. Ta vie, Seigneur Jésus, met en lumière surtout nous et à quel point on avait besoin que tu viennes nous racheter. Alors merci de nous enseigner, Père, dans le précieux nom de Jésus et pour la gloire de son nom. Merci. Et Seigneur, avant d'aller plus loin, on veut te remettre nos gouvernements, tu dis de prier pour eux. Ils ont une tâche énorme. Accorde-leur ton conseil. Annule le mauvais conseil. Soutiens-les. Ils doivent, Seigneur Dieu, sûrement avoir besoin d'être renouvelés même dans leur force physique et psychique. Être bombardés de toutes parts. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, bénis-les abondamment. Et Seigneur Dieu, merci de t'occuper de nous tous, principalement aujourd'hui de Patrick Landry. Il a vraiment besoin de ton soutien afin que, Seigneur Dieu, quand tu prépares notre départ, Seigneur Dieu, c'est facile de penser qu'un jour on va être dans ta présence. On peut tous penser qu'un jour on va mourir, mais tant que c'est pas proche de nous, c'est quasiment comme une histoire. Mais pour Patrick, c'est une réalité. Il est en train de se préparer à partir vers notre destinée éternelle, à la maison de ton Père, parce que tu l'as racheté. Seigneur Dieu, que dans l'Église, on apprenne, pas juste de manière intellectuelle, la parole, mais qu'on apprenne à tous les jours à dépendre de toi, à te poser des questions, à marcher avec toi un Dieu vrai et vivant. Pas juste une philosophie de vie. Alors, Seigneur Dieu, merci de t'occuper de chacun de nous ici, de continuer à consoler la famille Legault, d'avoir ramené auprès de toi Sébastien, M. Jonf. Seigneur, et même Charles. Seigneur, on n'est pas habitué de vivre en abandonnant, Seigneur Dieu, l'illusion qu'on est ici pour toujours. Alors, s'il vous plaît, qu'on apprenne à compter nos jours et qu'on puisse, comme on l'a chanté, avoir cette sagesse qui vient de toi pour savoir comment bien organiser notre vie ici et surtout de savoir, Seigneur Dieu, qu'on a un héritage éternel qui nous attend. Et là, un coup qu'on a passé ce voile, ce dernier ennemi qui est la mort, eh bien, Seigneur Dieu, ils n'ont plus jamais à penser que ce jour s'en vient. C'est fini pour eux, ils sont maintenant dans la vie avec toi pour toujours. Alors, enseigne-nous, Père, s'il vous plaît, la vérité. Merci d'avance dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, on est aujourd'hui, selon l'histoire, dans cet événement qu'on appelle, dans la tradition de l'Église, le dimanche des rameaux. Et c'est la fameuse entrée de Jésus dans Jérusalem. Donc, ce que je nous propose, c'est qu'on puisse lire le texte dans Jean 12, à partir du verset 12. On se remet dans le contexte après. Mais d'abord, on va lire le texte à partir du verset 12. Si en haut, on est prêt, ils sont toujours prêts. Et puis, on va lire jusqu'au verset 36. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon. Il s'assit dessus. Selon ce qui est écrit, « Ne crains point, fille de Sion. Voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et qui le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns les autres, « Vous voyez que nous ne gagnons rien. Voici, le monde est allé auprès de lui. » Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec instance, « Seigneur, montre, nous voudrions voir Jésus. » Donc Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? » Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis s'en alla et se cacha loin d'eux. Même verset 37, on va continuer encore un peu. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète avait prononcée. « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? » Aussi, ils ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, ou celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge, la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » C'était la lecture de la parole de Dieu. Donc, on voit ici, à partir du texte, qui dit, bon, le lendemain, donc on est, donc, il faut aller vers la veille. Jésus, finalement, se trouve la veille qui était retourné à Béthanie. Et pour ceux qui ont déjà fait un tour en Israël, vous vous rappelez où Béthanie se trouve, c'est juste l'autre bord de la vallée lorsqu'on est finalement vers le mont du Temple. Il y a comme une vallée et de l'autre côté, vous montez où est-ce que le fameux jardin des Oliviers, là. Je fais semblant que vous le savez, là, mais en tout cas, tiens. Et puis, si vous allez de l'autre côté de la colline, vous en allez vers Béthanie. Et donc, Jésus était retourné avec ses disciples, mais n'oubliez pas, il est obligé de faire avec ses disciples de marcher secrètement, en cachette, parce que la police du temple a mis un arrêt, ils veulent l'arrêter et le mettre à mort. Tu sais, c'est un peu comme dans les films western, là, quand tu voyais l'affiche là, recherché. Là. Eh bien, Jésus était recherché à grandeur. Et puis, il s'en va donc chez son ami Lazare, qu'il avait ressuscité. Et comme c'est la coutume dans ces villages, eh bien, ce n'est pas simplement la famille qui le reçoit, c'est tout le village, au fond, qui reçoit. Et tout le monde avait comme contribué à faire de la nourriture, fait que Jésus arrive avec ses disciples. Et puis, ils sont en train de manger. Lazare est avec eux. C'est quand même trippant, tu sais. Et n'oubliez pas, il y a une très bonne haleine. Parce qu'il est revenu vivant, il se brosse les dents et il ne pue plus. Mais c'est intéressant de savoir que Jésus a ressuscité un mort mort. C'est le dernier miracle que Jean nous rappelle. Parce que quand Jésus faisait un miracle, n'oubliez pas, ce n'était pas pour régler le problème d'ici et de maintenant. Il faut se le rappeler sans arrêt parce que beaucoup de faux prédicateurs sont en train justement de tromper des foules entières qui sont dans le désespoir de cette vie présente en disant « Non, non, venez à Jésus, ça va régler tous vos problèmes ici et maintenant. » Et même on promet souvent à des gens pauvres qui vont devenir riches, à des gens malades qui vont tous être en santé. Il y a des tapes sur le museau qui se perdent des fois. Car ce n'est pas la raison pourquoi Jésus faisait des miracles. Lazare, Jésus sait très bien que c'est à cause de ses disciples qui permet que Lazare meure. Si vous vous rappelez de l'histoire, au chapitre 11, 10, 11, vous vous rappelez? Il sait très bien que son ami Lazare est malade. Et il va attendre qu'il meure. Et il va même rappeler à ses disciples, « C'est à cause de vous. » Les disciples se sentent un peu coupables en disant, « Hey, on n'a rien fait, c'est pas nous autres qui l'a tué. » Non, c'est parce que vous pensez, intellectuellement, il y a un blocage. Vous savez, notre grand défi dans la vie, puis même les philosophes païens l'ont compris, un gars comme par exemple Socrate, il a dit, « Le danger, finalement, de l'ignorance, ça vient de ce que tu penses savoir. » Et le gros drame qu'on a dans nos vies, c'est souvent on entre finalement dans un sujet avec l'idée préconçue que je veux voir arriver. Le seul moyen d'apprendre, il faut être souvent déstabilisé. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, on n'aime pas apprendre. On veut plutôt consolider ce qu'on pense savoir. Et c'est pour ça qu'on reste souvent dans une ignorance dangereuse. Jésus déstabilisait ses propres disciples régulièrement. Et ils sont assez honnêtes pour dire, comme il a dit, en passant au verset ici 16, Jean rappelle dans son évangile, entre autres quand Jésus avait dit au chapitre 2, « Tu sais, détruisez ce temple, je le relèverai en trois jours. » Jésus a dit ça en passant, il n'était pas loin du temple. « Détruisez ce temple, je le relèverai en trois jours. » Fait que les gars qui sont avec Jésus, ils regardent quoi d'après vous quand il dit « Je détruis ce temple, je le relèverai en trois jours. » Mais regarde la grosse bâtisse. Trois jours. Juste se démolir, ça va prendre plus que trois jours. Et Jean dit, on ne comprenait pas. On est tellement boqué finalement sur ce qu'on pense savoir que l'instruction doit finalement entrer dans le besoin. C'est par besoin qu'on assimile. C'est pas pour rien que Dieu permet des épreuves dans notre vie. Pour souvent nous déstabiliser, afin qu'on ait dans l'humilité, l'humilité c'est un signe de pauvreté, je reconnais que je ne sais pas, alors finalement on peut demander au Seigneur, écoute, enseigne-moi parce que j'ai rien compris. Puis je suis bien content que tes disciples aussi ne comprenaient rien, je ne me sens pas tout seul dans ma gang. Et si eux autres ont réussi à comprendre par après, c'est que toi, c'est toi qui nous enseigne, c'est toi qui peux nous délivrer de toutes les impressions qu'on a dans ce monde. On est tous élevés dans une réalité. En passant, la force de l'Église, entre autres ici, c'est d'avoir en commun des cultures différentes. Ce n'est pas un désavantage, c'est un très grand avantage. Parce que, honnêtement, est-ce que c'est facile de voir, selon Jésus, la paille dans l'œil de ton frère? Est-ce que c'est facile de voir la poutre que tu as dans le tien? Quand on est élevé dans une culture, on ne la voit plus tellement qu'on est dedans. Mais avez-vous remarqué que quand on va ailleurs, on remarque des choses que les gens de la localité ne remarquent pas pantoute? Je me rappelle d'avoir des amis qui sont arrivés à un moment donné, je ne dirais pas de quel pays parce qu'ils sont gentils quand même. De France. Et mes amis qui arrivent de France, souvent, ils me font remarquer dans notre culture québécoise toutes sortes de choses bizarres, que moi, je ne trouve pas bizarres. Je les trouve, eux autres, bizarres. Mais c'est facile pour eux autres de voir. La même chose que quand vous arrivez dans une autre assemblée, vous allez remarquer les forces et les faiblesses. Donc, c'est pour ça que la communion fraternelle est un élément qui fait partie des quatre moyens que l'océan nous laisse pour communiquer sa grâce, afin qu'on puisse grandir par besoin. Donc ici, dans le contexte, Jésus, finalement, il est en train de manger, comme je vous dis, avec Lazare. Le village est là, ils sont tous excités parce qu'ils sont en train de manger en plus avec le gars qui était mort, Lazare. Si vous auriez rencontré à ce souper-là Lazare, est-ce que vous auriez aimé ça, discuter avec lui? Il posait toutes sortes de questions. Comment ça se passe quand tu es mort? On meurt comment en passant? Parce que tu sais, on n'a pas beaucoup de pratique à mourir. Lazare était mort. Il est revenu à la vie après 4 jours. 4 jours, ce n'est pas simplement un corps qui peut être réanimé. Il a dû y avoir carrément, quasiment une recréation dans ce gars-là. Pas vrai, docteur? Le cerveau devait commencer à être mou un peu. Les poumons devaient être écrasés pas mal. Hein? Et il fallait pas trop respirer la laine du monsieur. Il n'y en avait plus, mais ça ne devait pas sentir trop bon. Quand Jésus dit à Lazare, enlevez la pierre. Puis Marthe, qui est vraiment quelqu'un qui est bien organisé dans la vie, veut quasiment protéger la réputation de Jésus. On est prêt à croire que Jésus a ressuscité des morts chauds. Parce qu'oubliez pas, à l'époque, quand quelqu'un mourait, souvent on l'enterrait la journée même. Mais il y avait toutes sortes de fausses idées qui traînaient à l'époque que l'esprit du mort n'était pas loin et qu'il voulait réintégrer le corps. Jésus a attendu que cette fausse interprétation, qui est venue peut-être par constatation, vous avez déjà entendu parler que quand il y a des gens qui ont ouvert des tombes, ils avaient finalement remarqué que le mort avait essayé de gratter pour sortir. Avant, malheureusement, des fois, on aurait pu enterrer des gens qui étaient dans un profond coma et on les enterrait vivants, en pensant qu'ils étaient morts. Puis à un moment donné, imaginez-vous, vous rêviez dans votre tombe. Les claustrophobes, là, ils n'aiment pas ça, bien, cette histoire-là. T'sais. Alors, on s'imagine qu'il était mort, mais que l'esprit est rentré. Tu sais, par constatation, on fait des interprétations. Alors, Jésus va défier finalement toutes les compréhensions que les gens peuvent avoir en disant, là, moi, vous en ressuscitez un vrai mort mort. Ce n'est pas un mort chaud, c'est un mort frais et un mort qui pue. Alors, quand il est avec eux en train de souper, tous les gens sont dans un, tu sais, wow, tu sais, c'est l'espoir. Donc, il dit que le lendemain, une foule nombreuse, qui commençait déjà à arriver à Jérusalem pour la purification, ainsi de suite, et tout le monde se demandait en arrivant à Jérusalem, quand ils étaient au temple pour la purification cérémonielle, tout ça, là, en passant, est-ce que vous pensez qu'il va venir Jésus? Parce que Jésus commençait à avoir une réputation à grandeur du pays. Pensez-vous qu'il va venir à la Pâque? Tout le monde a tout demandé. Mais la police du temple dit, en passant, si jamais vous savez où il est, vous devez le dénoncer. On doit l'arrêter. Les gens, tu sais. Alors, le lendemain, Jésus, finalement, se prépare à aller. Mais c'est important qu'on puisse rappeler ce que Jean essaie de souligner ici. Est-ce que vous remarquez, c'est à partir du chapitre 12, 11, la résurrection de Lazare, 12, l'entrée dans Jérusalem, c'est aujourd'hui. Et ça veut dire que vendredi, il se fait crucifier. C'est la semaine la plus intense. Est-ce que vous remarquez, on est quasiment en plein milieu de son évangile, la manière qu'on a divisé son évangile. Il va parler beaucoup plus que les autres de toute cette dernière semaine, surtout de son dernier repas avec les disciples. Il va passer beaucoup de temps à nous expliquer, au fond, le vrai héritage que le Seigneur Jésus est en train de donner à ses disciples. Il est en train de vraiment mettre le fondement le plus solide à toute l'instruction que les disciples normalement devaient comprendre au bout de trois ans et demi d'enseignement avec Jésus. Et là, il va faire des manifestations de qui il est pour vrai. Qui m'a vu a vu le Père. Et si vous remarquez, en contemplant Jésus, une des choses les plus fortes, les plus contradictoires de tout notre monde dans lequel on vit, c'est son humilité, sa douceur, sa bonté. Contrairement à la maladie mentale qu'on a tous ici, lui, il n'avait pas besoin de devenir quelqu'un. Il n'était pas contrôlé par la honte, ce qui est finalement un des premiers symptômes que produit le péché chez le pécheur. La honte. On est gêné d'être qui on est. On veut toujours finalement que les gens nous interprètent mieux. Jésus, finalement, n'est absolument pas gouverné par cette honte. Il manifeste quelque chose qui nous dépasse complètement. C'est le seul qui pourrait dire, c'est à moi. Tu sais combien de gens aujourd'hui dans leur regard disent, hey, c'est ma vie. Mon pauvre toi, juste un petit virus peut passer dans le bout et tu n'as plus rien ici. Puis avez-vous remarqué qu'en vieillissant, on blanchit? On est à veille de partir? On ne possède pas grand-chose. On a l'illusion quand on est petit qu'on possède les choses. Mais il y a une sagesse qui rentre avec le temps. Même dernièrement, je regardais ma bibliothèque. Là. je me disais, ouais, je ne sais pas où ça s'en allait, ça. Ça a été quasiment mes enfants, ça. Puis je dis, ben, ils vont peut-être finir dans un dépotoir ou. C'est beau. Tout part. Alors, finalement, le Seigneur va manifester une chose extrêmement importante. La bonté, c'est sûr. L'humilité. L'humilité que Dieu s'attend que nous ayons. Sans humilité dans notre vie, sans besoin, sans voir notre pauvreté, vous ne serez pas le sujet de la grâce de Dieu. Dieu résiste les orgueilleux, mais il va faire grâce aux humbles. Le plus grand danger dans nos vies, c'est quand vous commencez à vous prendre pour un autre. On devrait toujours, dans ce temps-là, aller prendre une petite marche avec le Seigneur tout seul pour vraiment demander pardon et surtout de se rappeler sa grâce à notre sujet. Quand vous commencez à parler fièrement de vous, c'est un mauvais chemin. Et je sais qu'on est dans un monde qui fait tout pour, au contraire, apprendre à tout le monde à parler en super bien de soi-même. Mais ce n'est pas là qu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur va entrer dans Jérusalem, comme il est dit ici, puis les gens vont prendre des branches de palmiers. Nous autres, on pourrait se demander, mais pourquoi? D'après vous, à quoi sert ici, pourquoi c'est souligné qu'ils prennent des branches de palmiers? Est-ce quelqu'un qui sait à peu près pourquoi? Qu'est-ce que ça peut représenter pour les Juifs de l'époque? Bon, OK, je vais vous le dire. Ça représente un symbole national. D'abord, c'était par des branches de palmiers et puis aussi de deux, trois autres, finalement, branches, qu'on faisait la fête des tabernacles, la fête des cabanes. Mais dans l'histoire, le palmier est devenu de plus en plus l'image qui représentait la nation d'Israël. Au point que même quand les Romains ont conquis, finalement, et ont détruit sur leurs pièces de monnaie pour montrer qu'ils avaient conquis et détruit Israël, ils avaient mis une branche de palmier. Donc, c'est comme si, par exemple, Jésus rentrait le 24 juin, et puis tous les Québécois disaient « Ah, le roi est arrivé, le roi du Québec! » Et qu'est-ce qu'on aurait sorti? Le drapeau du Québec. C'est une forme de drapeau national. C'est une fierté nationale. C'est pour ça qu'ils vont dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, virgule, le roi d'Israël. » Mais le Seigneur savait très bien que selon les Écritures, il va rentrer finalement sur un petit âne. C'est quand même intéressant. Un petit âne. Puis souvent, on va se demander aujourd'hui, mais pourquoi il rentre, tu sais? En Israël, comme pour nous aujourd'hui, tu sais, il y a des gens qui sont très, très, très dépendants de leur voiture. Hein? Non, il y en a vraiment, c'est comme une extension de leur personnalité. Non, je sais que c'est pathétique, là, mais c'est une forme de maladie mentale qui fait que des vendeurs peuvent vendre des chars chers. Maintenant, un petit ânon. En plus, c'est un petit âne qui n'avait jamais été dompté. Donc, pas brisé, pas dompté. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'embarquer sur un cheval ou un âne non dompté, ça va faire du rodéo. Mais Jésus, d'abord, manifeste une autorité qui ne vient pas de la menace. Nous, au contraire, on essaie souvent d'avoir notre autorité basée sur la menace. « Hey, t'es mieux de m'écouter, c'est moi le boss. » Ça veut dire que tu n'as pas d'autorité. Moins tu as de l'autorité, plus tu as besoin de puissance. Mais plus tu as de l'autorité, moins tu as besoin de puissance. Ta simple parole va produire la soumission volontaire des gens parce qu'ils ont confiance en toi. Jésus regarde le petit ânon et lui le reconnaît. Il se soumet sans problème. Il s'assoit dessus et il rentre. Maintenant, si Jésus aurait voulu impressionner avec les moyens de l'époque, d'après vous, qu'est-ce qu'il aurait choisi comme véhicule de l'époque? Un éléphant, je ne suis pas sûr, mais peut-être. Mais si quelqu'un veut montrer qu'il est un conquérant militaire puissant, un genre de César de ce monde, il serait venu à cheval. Le cheval représentait à l'époque un peu comme l'arme de guerre. L'âne représente le véhicule des citoyens de la place. C'est comme si, je ne sais pas, là, je ne veux pas blesser ceux qui sont identifiés à leur voiture. Régent, c'est quoi un char ordinaire? OK. Imaginez Jésus rentre dans Jérusalem, la foule l'attend, il rentre en Lada. Je pense que ça n'existe même plus comme voiture, tellement que c'était pathétique. Et puis les gens le regardent rentrer, même ses disciples devaient. T'es sûr? Parce que c'est lui qui avait dit à ses disciples, encore avec même l'action de Dieu dans tout ça. Rentrez dans la ville et quand vous allez voir finalement chez un monsieur qui va avoir un âne, un ânon, dites-y, le Seigneur en a besoin. Imagine-toi, tu t'en vas chez quelqu'un que tu ne connais pas, tu vois justement une ânesse avec son petit ânon, et tu viens voir le monsieur, on va prendre votre ânon, le Seigneur en a besoin. Et le monsieur est même disposé d'avance en disant, OK, d'accord. Et il part avec le petit âne. Même la mère de l'ânesse devait se demander, est-ce qu'il s'en va, mon petit ânon? Le petit ânon s'en va. Tin, 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 tu vois? Il voit Jésus arriver, puis ça a des grandes oreilles, ça, tu sais, il est content. Il s'assoit dessus et il rentre dans Jérusalem et les gens l'acclament. Enfin, la délivrance. Mais encore une fois, la délivrance selon leur idée, leur concept. C'est comme un cri national. Enfin, nous, les Juifs, on va renverser les Romains. Enfin, on va dominer le monde. On va leur montrer, et c'est souvent précédé et nourri par un esprit de vengeance. Malheureusement, souvent les persécutés persécutent. Le seul moyen d'en sortir, c'est par Jésus-Christ. Alors ici, finalement, ça produit une foule avec des réactions, parce qu'oubliez pas, dans la foule, il est dit qu'il y avait des gens, au verset 17, tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Il y avait plein de gens qui étaient aussi du village de Béthanie et certains de Jérusalem qui étaient là quand Jésus avait ressuscité Lazare, qui étaient dans la foule en disant, c'est lui, il a vraiment ressuscité Lazare, c'est Lazare, c'est lui qui a ressuscité Lazare. Puis là, toute la foule est là, puis il y a même des gens qui viennent de l'extérieur entendre parler de ce fameux personnage Jésus. Écoute, ils veulent le voir, il y a un gars qui ressuscite des morts. Puis en parlant de la résurrection de Lazare, moi je suis sûr que certains ont parlé de d'autres miracles qu'il a fait, la multiplication des pains, les poissons, les guérisons, les délivrances. Tout le monde disait, ouais, on veut le rencontrer, ce monsieur-là. Et là, finalement, de manière externe, qu'est-ce que les pharisiens vont dire au verset finalement 19? Les pharisiens se dirent les uns les autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé auprès de lui. » Tout le monde est en train de, la foule entière, des milliers, certains auteurs, même comme je pense c'est Joseph, Flavius Joseph, raconte que dans ces grandes fêtes à Jérusalem, ça pouvait contenir jusqu'à 1 à 2 millions. Carson n'est pas sûr, mais en tout cas, ce n'est pas grave. Anyway, il y avait bien du monde. Il y a c'est plein, et tout le monde est en train de crier, et n'oubliez pas, l'effet de la foule amplifie. Et les gens s'excitent de plus en plus à vouloir le voir, ce Jésus. Si on avait pensé dans les moyens de ce monde, on aurait dit, ben gars, même moi, je suis sûr que les disciples étaient là en train de dire, hey, on gagne vraiment nos élections, là. Et Jésus dit non. Surtout, il y a des gens de la diaspora qui arrivent, on veut voir, tu sais, ils vont demander à Philippe et André, peut-être parce que finalement, ils ont des noms grecs. Fait qu'ils vont demander à ces gars-là, parce qu'ils sont du nord de la Galilée, puis dans le nord de la Galilée, bien, il y avait souvent un mélange entre les, tu sais, les conquis et les juifs, là, tu sais. C'était des gens méprisés en passant. Hein. Alors, ils vont voir Jésus en disant, écoute, il y a des gens de la diaspora, on ne sait pas qui sont exactement ces Grecs, mais c'était peut-être même des convertis au judaïsme qui viennent finalement en Israël parce que, tu sais. Et là, le Seigneur va leur dire, parce que même eux autres sont comme sûrement contents en disant, regarde le succès, on récolte trois ans et demi du succès, des milliers de gens qui sont derrière toi. Ils vont être capables de renverser le gouvernement présent, ils vont être capables de repousser la police du temple. On gagne! Jésus dit, mon âme est troublée. Maintenant, l'heure est venue. Est-ce que vous réalisez que Jésus est en train de carrément péter la ballonne à tout le monde? Ce n'est pas un coup de miracle qui va nous sauver. Ce n'est même pas un coup d'instruction qui va nous sauver. Tant qu'on n'a pas compris qu'on est sans force Et le sans force veut dire que dans notre nature présente, on est sans force et sans désir, sans amour pour Dieu. Et même à la limite, si on cherche Dieu religieusement, c'est beaucoup plus pour nous. Combien de fois la foule a voulu garder Jésus pour eux? Quand il a multiplié le pain? Encore une fois, qu'est-ce que les gens ont retenu de la multiplication du pain dans Jean 6? Jean nous rappelle que ces gens-là ont simplement rappelé « on a mangé ». Alors, ils veulent comme avoir Jésus en gardant Jésus quasiment comme le fameux génie dans la bouteille. On va pouvoir le garder, puis on va avoir le boulanger éternel avec nous autres sans problème. On va avoir le médecin éternel avec nous autres. On va avoir finalement tout ce qu'il faut pour que ma vie ici, maintenant, soit réussie. Et Jésus dit non, vous n'avez pas compris. Je m'en viens juger cette vie, cette création, ce monde et le prince qui a pris contrôle de ce monde parce que Adam a littéralement brisé l'alliance avec Dieu dans le jardin. Je m'en viens reprendre contrôle, juger, jeter ce prince dehors et remettre l'être humain finalement dans le plan original du Père en charge de toute la création par sa propre incarnation. Mais il dit, attendez-vous pas que je fasse arriver le royaume de Dieu ici. Et ça, c'est le danger souvent que les chrétiens, au travers des siècles, ont imposé le christianisme comme étant le royaume de Dieu ici, maintenant. Non. Nous sommes sauvés en espérance. Ce n'est pas on est sauvé en espérant d'être sauvé. Notre salut, c'est après. Ici, oui, le Seigneur va s'occuper de nous autres. Oui, il peut pourvoir nos besoins. Mais ce n'est pas vrai qu'il va tout régler. Et la bonne leçon qu'on peut apprendre, puis que je voudrais laisser sur ce message, le Seigneur va leur dire, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il demeure seul. En d'autres mots, Jésus est en train de dire, à moins que j'accomplisse la volonté de mon Père, qui est d'offrir le véritable agneau de Dieu. Encore une fois, la foule oublie le message de Jean-Baptiste. Comment Jean-Baptiste a présenté Jésus? « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » L'agneau, Jésus dit, on est à la fête, qui rappelle un agneau qui a été immolé, le sang sur la porte, afin que l'ange exterminateur qui était pour venir tuer tous les premiers-nés, autant des êtres humains que des animaux, tous les premiers-nés étaient pour périr. Sauf ceux quand l'ange voit que le sang est sur la porte à l'extérieur, l'ange passe au-dessus de la maison sans tuer le premier-né dans la maison. C'est pour ça que ça s'appelle « Pessah », qui veut dire, les Anglais ont gardé l'expression « pass over ». Et donc, à cette fête, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard pourquoi Jésus est mort à cette fête. En passant, il n'est même pas mort au jour du grand pardon. Il est mort à cette fête qui rappelle, à chaque année, ça rappelait Dieu qui a libéré son peuple de l'esclavage d'Égypte. Et là, on voit finalement toute l'image. Jésus dit, c'est moi la réalité. C'est pour ça que quand il a fait le pain, il a montré à la foule, vous n'avez pas compris pourquoi j'ai fait la multiplication du pain. Vous croyez que mon Père vous avait donné le pain du ciel dans le désert, la manne? Non! C'est aujourd'hui qu'il vous donne le vrai pain du ciel. Et Jésus dit, c'est moi. À moins que vous mangiez ma chair et que vous buviez mon sang, vous n'aurez aucune part. Donc, le Seigneur est en train de montrer que malgré toute l'instruction, l'enseignement, écoute, c'est un peuple qui est mis à part, ça fait à peu près quasiment 1500 ans. Aucune nation sur toute la face de la terre, de toute l'histoire de l'humanité, aucune nation a été préservée, gardée, instruite, a eu des manifestations, les prophètes. Il n'y a pas de nation sur terre qui a eu toute l'attention de Dieu dans un peuple. Et comment ça finit quand ils viennent? Ils vont le tuer. Ils vont le tuer. On préfère nos systèmes. On préfère nos idées. Les pharisiens, les sacrificateurs, qui sont en passant supposément des experts du texte biblique, ils préservent bien plus leur système que où les Écritures supposaient les amener. Ils vont dire, voyons, on ne gagne rien. Tout le monde est en train d'aller. Puis même, ils l'ont qualifié au chapitre 11, juste avant. Il dit, on reconnaît que cet homme-là, il dit, que ferons-nous? Car, verset 47 là, du chapitre 11, car cet homme fait beaucoup de miracles. Les gars qui veulent le tuer sont capables de reconnaître une chose, ils savent, ils sont eux-mêmes en train de dire, cet homme fait beaucoup de miracles. Mais ça, moi, un gars qui fait bien des miracles, j'irai poser des questions. Non, eux autres veulent le tuer. Puis en plus, ils vont ajouter, non seulement lui, versets 10 et 11, verset 10, il dit, les principaux sacrificateurs du chapitre 12, là, les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Ils veulent aussi tuer Lazare parce que Lazare est une preuve vivante que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Est-ce que vous réalisez notre condition? Avez-vous réalisé à quel point on est malade, pervers, fêlé? Non, je sais que vous n'aimez pas assez entendre ça, là. Mais écoutez, avouons-le. On est extrêmement fragile. Ça ne prend pas grand-chose pour montrer à quel point on est... Il faut que je me calme. Il y a des enfants. Ça ne prend pas grand-chose pour révéler comme on est pourri. Je vous le dis, deux, trois petits, un petit peu de pression, un petit peu de faim, un peu de crainte de finance, un peu de n'importe quoi. Ça peut révéler. Puis pensez pas parce qu'on est chrétien que nous autres, on n'est plus comme les autres. Nous, on est supposé de le voir plus clairement à quel point on est pourri. Avec ceux qui veulent continuer à flatter leur fourrure personnelle, vous allez à un moment donné pogner un mur. Parce que la grâce de Dieu est pour ceux qui reconnaissent que Christ est venu que pour les perdus. Il n'est pas venu pour les bons qui se pensent meilleurs que les autres. Il est venu pour ceux qui ont reconnu, sans toi, Seigneur Dieu, c'est vrai, on est vraiment perdus. Et ça, ça mortifie notre chair. Ça, ça frappe au plus profond de nous cette justice propre qui permet même à du monde. Tu sais, en ce moment, la crise, ils disent qu'il y a beaucoup, ce qu'on appelle une nouvelle expression, des... comment ça s'appelle? Pardon? Non. Non, le tuage des femmes. Féminité, oui, c'est ça. Comment ça se fait que les gars tuent leurs femmes? Comment ça se fait qu'ils s'enragent contre elles? Parce que c'est des pervers. Ils ne veulent pas le reconnaître. Et souvent, ils disent, « Ah, je l'aimais trop, c'est pour ça que je l'ai tué. » Et c'est si bol. Pas grand monde qui devrait se faire aimer par toi, une malade. Si tu peux le reconnaître que tu es pervers, ça t'aiderait. Parce que déjà, tu te ferais moins à craindre dans ta justice sale, que ça te donne le droit de tuer quelqu'un, de battre quelqu'un, de mépriser quelqu'un, de tourmenter quelqu'un. Mais on ne veut pas, on ne veut pas, on veut... Vous savez, on se cache toujours derrière le bien qu'on fait. On se cache derrière ça. Jésus est venu exposer, il dit, la lumière est venue dans le monde. Quand il dit, marchez dans la lumière, afin que les ténèbres ne viennent pas vous surprendre. Vous vous rappelez ce que Jean, c'est toujours le même auteur. Jean, au début, il dit... La lumière est venue dans le monde, mais les gens ont préféré les ténèbres. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi les gens ont préféré les ténèbres plutôt que la lumière qui est venue dans le monde? Parce que leurs œuvres, la lumière mettant en lumière que leurs œuvres sont mauvaises. Et les gens ne veulent pas voir. Tant qu'on ne voudra pas voir ce qu'on est, je suis désolé, vous ne pouvez pas désamorcer ce que vous êtes. Et plus on cache ce qu'on est, ça travaille et ça fermente en dessous. Et ça produit des désirs étranges. Donc, le Seigneur est en train de montrer clairement, même à ses propres disciples, il leur donne une dernière leçon au souper. Il se déshabille devant eux autres. N'oubliez pas, on est dans une culture très pudique. OK, contrairement aux Grecs, eux autres, c'était comme les gars de gym, là, les Grecs. Il y a beaucoup de miroirs dans un gym. Non, c'est intéressant de voir le monde qui sont là devant les miroirs. Ils veulent voir si les packs sont en train de se faire. C'est le salon du narcissisme. Et souvent, tu te demandes, ils nous mettent en forme, pourquoi? Ça ne sert à personne. Mais oui, c'est pas grave. Donc, on est contrairement à cette culture qui aime se montrer en speedo. Ça existe encore, ça? Hey, ça fait peur de voir ton voisin en speedo. Hein? Tu veux faire pousser des haies. Bref, les Juifs étaient très pudiques. C'est pour ça que Jésus donne une illustration à bouleverser les gens. Il dit, si quelqu'un te demande ton manteau, les gens à l'époque, là, il y avait juste... un vêtement, puis en hiver, il y en avait deux. Tu avais une tunique, puis après ça, tu avais un manteau en hiver. Le Seigneur, il dit, si quelqu'un te demande un manteau, laisse-y aussi ta tunique. En d'autres mots, tu pars tout nu. Maintenant, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Tous ses disciples sont là, ils sont en admiration devant lui. N'oublie pas, il vient de rentrer dans Jérusalem, toute la foule l'acclame. N'oubliez pas, quand une foule acclame quelqu'un, c'est pas pour rien que des gens veulent aller à la télévision, et la foule qui acclame quelqu'un, ça l'amplifie. Un artiste qui vit finalement de ce que la foule l'amplifie, la journée qui devient un has-been, ces gens-là tombent dans des dépressions profondes. C'est violent pour ces gens-là qui ont vécu de ce que la foule t'amplifie. Et même souvent, les gens veulent appeler les gens quand ils sont populaires, puis la journée qu'ils sont oubliés, on ne les appelle plus. Donc, Jésus est en pleine gloire par rapport à la foule. Les disciples, leur discussion principale entre eux autres, c'est toujours, c'est qui le plus grand? Quand on va rentrer dans le royaume, c'est qui le premier ministre? T'sais? Même la mère de Jacques et Jean, vous vous rappelez? Elle vient voir Jésus, puis la madame, c'est une madame riche, madame Salomé. Elle vient voir Jésus en disant, tu sais, je ne veux pas être méchante, mais elle sous-entend, s'il y a quelqu'un qui a soutenu tes voyages missionnaires, elle faisait partie de celle qui soutenait financièrement la mission de Jésus pendant 3 ans et demi. Elle dit, bon, mais regarde, peux-tu me rendre un petit service, mes 2 garçons, regarde comment ils sont gentils. Jésus dit, oui, ça, c'est les fils du tonnerre qui voulaient faire descendre le feu sur un village. tu pourrais-tu les mettre un à ta droite, un à ta gauche? Est-ce que vous réalisez encore une fois cette phobie, cette maladie mentale, « je veux devenir quelqu'un, je veux devenir quelqu'un » parce qu'on pense qu'on va être aimé si on devient quelqu'un. En passant, cherchez quelqu'un qui vous aime, pas à cause de ce que vous avez, mais à cause de qui vous êtes, qui vous découvre. Dieu nous aime et il n'y a rien de plus rassurant qu'il nous aime nous et non pas ce qu'on a et ce qu'on peut faire. Et ça, ça nous libère pour commencer à faire le vrai. Le vrai se fait la journée que tu n'es plus obligé de le faire, tu le fais par amour. Alors, finalement, le Seigneur, dans sa pleine gloire, il sait très bien que ces gars-là sont remplis de la toxine, finalement. Bon, on gagne nos élections bien vite, là. C'est le dernier souper. C'est sûr qu'il y a de la pression de la police autour, puis tout ça, là, tiens. Et Jésus se déshabille devant eux autres. Là, Pierre est là. Oh, 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 ça, j'aime pas ça, voir ça. Non, non, je sais pas, vous avez déjà vu votre père, votre mère se déshabiller tout nu devant vous autres? C'est pas le fun. Et puis, il prend un linge, il se couvre, tu sais, la pudeur, il couvre un peu avec un linge, et là, il prend une bassine, puis il s'en vient laver les pieds. Laver les pieds. On est dans une culture qu'on marche en sandales. On est une culture que les voitures de l'époque, c'est des ânes et des chevaux. Et quelquefois, il y avait aussi des chiens dans les rues, et dans ta sandale, tu fais « OK ». Et c'était entre tes orteils. Alors, quand tu allais manger à une table, la table, c'était un tapis. Fait que quand tu allais manger à quelque part, tes pieds n'étaient pas à terre, puis ta tête en haut. Ta tête était à côté des pieds du voisin. Et s'il y avait du fromage moisi entre les orteils, c'était peut-être pas trop intéressant. Alors, il y avait même un règlement en Israël, tu n'avais même pas le droit d'imposer à tes propres serviteurs, à tes esclaves, l'obligation de laver les pieds de quelqu'un. Et Jésus se met à genoux devant ces gars, il lave leurs pieds. Il enlève les petits morceaux qui entrent les orteils. Et Pierre est là, non, 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 pas moi, non! Pierre, il est scandalisé. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ce que je fais, tu ne peux pas comprendre encore. À cause de ta maladie mentale. Elle est très profonde. Mais quand tu vas être libéré, tu vas comprendre. Non, non, non! Si je ne te lave pas les pieds, Pierre, tu n'auras aucune part avec moi. Dans mon royaume, contrairement à ce royaume ici-bas, on ne fonctionne pas de la même manière. Tout ce que je vais te donner, c'est pour servir. Dans ce monde, c'est tout ce que tu possèdes, c'est pour mieux dominer. On renverse les choses. Et Pierre, c'est un excessif. OK! Là, donne-moi un bain au complet! Non, non, tu n'as pas besoin d'un bain au complet. Tu es déjà purifié. Tu vas marcher dans cette vie, puis vous allez vous apprendre à vous laver les pieds les uns les autres. Parce qu'on va marcher dans la vraie vie, puis quelquefois, on va marcher dans du caca. Et quelquefois, il va être mouillé. Et il va être entre nos orteils de marche. Et ça veut dire qu'il faut vraiment prendre soin les uns des autres. Et apprendre à se pardonner régulièrement. Pour rétablir des vraies relations. Pardonnez pas simplement pour être en règle. Pardonnez dans l'humilité pour que la relation soit authentiquement restaurée. Mais en passant, on peut demander au Seigneur, Apprends-nous à pardonner. Ce n'est pas juste une règle morale. C'est comment on rétablit une alliance pour vrai. Parce qu'il y a beaucoup de faux enseignements sur le pardon en passant dans le monde chrétien. Bref, le Seigneur va leur montrer, cette dernière semaine est la plus importante maintenant. Et Jean passe beaucoup de temps dans son évangile de nous parler de cette dernière semaine. Je vous encouragerais à lire le chapitre 11 jusqu'au chapitre 18 et 19. Pour que dimanche prochain, à Pâques, on comprenne mieux. Parce que Jean passe beaucoup de temps à nous enseigner la semaine la plus importante. Il n'y aura pas de miracle qui va se faire durant cette semaine-là. C'est déjà tout fini pour montrer le vrai travail qui va nous sauver. Et Jésus le dit lui-même. Là, maintenant, tout ce que j'ai fait, c'est totalement secondaire par rapport à ce que je dois aller faire. Et c'est tellement intense que je dois aller faire, mon âme est angoissée. Là, le Seigneur s'en va faire l'œuvre la plus gigantesque qu'on ne peut pas penser. Et en passant, c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux dit, « Si vous négligez un si grand salut, comment échapperez-vous? » Je vais finir avec une petite histoire pour que vous compreniez où est-ce que je vais en venir. Vous vous rappelez, j'avais déjà pris l'avion avec Jean Eppel. Jean Eppel, c'est un frère là, qui va dans une autre église. Et puis, à un moment donné, il avait su qu'il y a plusieurs années que je voulais aller à Womantashi. Puis, il m'avait appelé un jour. Il disait, « Écoute, Jeff, j'ai entendu dire à la radio que tu voulais aller. » Tu sais, c'était dans le temps ligne directe. Il dit, « Justement, je dois aller là. J'amène un gars du gouvernement. Vu que tu veux y aller, si tu veux, je t'amène. » « Ah oui, OK, wow, en avion. » OK. Fait qu'il dit, « Amène du linge chaud. » On est en hiver. Et puis, « Amène aussi un sac de couchage. » Pourquoi on ne revient pas dans la même journée? Oui, on va revenir dans la même journée, mais en cas. En cas de quoi? Ben, si jamais on crache. Ça peut arriver, hein, pas vrai? T'en as eu un avion? Bon, j'ai OK. Ça fait que je m'en vais le rejoindre, justement. Puis, deux, trois jours plus tard, je rencontre le gars du gouvernement. Bonjour, tiens, on jase ensemble. Lui, il s'assoit à côté de Jean. Moi, je suis en arrière. Et puis, on part. Puis pendant qu'on part, tu sais, l'avion, ça va bien. Mais quand on commence à arriver vers les montagnes, ça commence à bardasser un peu. Hein? Tu dois le savoir, toi, Régent? Il y a des courants d'air un peu qui font des drôles d'affaires. Et quand ça brasse dans un petit avion, le gars du gouvernement me regardait, tu sais, en arrière. Puis j'étais là, je dis, oh, regarde, Jean. Pour moi, là, notre indice de danger, c'est la face de Jean. Si Jean est nerveux, on devrait être nerveux. Si Jean n'est pas nerveux, on ne sera pas nerveux. Puis Jean, finalement, était en arrière. Puis il nous regardait, puis je disais, t'as bien relax. Puis je dis, regarde. Pour moi, c'est important que le gars qui sait exactement ce qui se passe, sa face va me donner le message, c'est-tu dangereux ou c'est pas dangereux pour l'instant? Puis il n'était pas nerveux, Jean. Par contre, quand je regarde la face de Jésus ici, face à la mort, il ne fait pas semblant, comme la plupart des gens vont dire, « Ah, faites-en pas, il est bien mieux maintenant. » Ah oui, sur quoi tu te bases? Jésus lui-même dit qu'il va venir vaincre ce que l'Épître aux Hébreux puis d'autres vont dire, Paul aussi, il a vaincu le dernier ennemi, le plus terrifiant. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle que le diable, l'accusateur des frères, celui qui se sert même de la loi de Dieu pour carrément dire, « Tu ne peux pas! » les faire rentrer dans ta nouvelle création. Ils n'en sont pas dignes selon ta propre loi. Si tu me condamnes avec cette loi, je les condamne aussi. Et puis le Seigneur nous a montré au travers de toute sa parole, surtout par rapport à Zacharie. Vous vous rappelez le souverain sacrificateur qui arrive devant le Seigneur avec des vêtements souillés? Et puis le Seigneur dit, enlevez-y ces vêtements souillés. Et il le purifie. Et le Seigneur nous montre, il dit, le seul moyen de défier le diable, ce n'est pas d'abord en devenant meilleur. C'est en venant au Seigneur en disant, « T'es venu sauver ce qui était perdu? » Le Seigneur dit oui. Et après, il va nous donner une nouvelle loi entre nous, celle de s'aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Et aimer, ce n'est pas de prendre. Aimer, c'est de donner. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et le Seigneur va nous faire entrer déjà dans le principe de la nouvelle création, dans l'ancienne création. Et c'est sûr qu'il me dit, je vous avertis tout de suite, les gars et les filles, je vous envoie maintenant dans le monde comme des brebis, au milieu des loups. Et le Seigneur dit, ayez pas peur. J'étais la brebis par excellence au milieu des loups. Et même les loups, les méchants qui pensent être libres de Dieu, qui pensent qu'ils sont en contrôle de leur vie par leur méchanceté, même eux, ils sont sous le contrôle de Dieu. Et les apôtres vont comprendre à la fin que selon les Écritures, Jésus a été mis à mort par des menteurs, des meurtriers, mais c'était selon le dessein arrêté de Dieu. Donc, soyons rassurés en ce moment. Tout ce qui nous arrive dans une journée n'échappe jamais au contrôle de Dieu. Ce n'est pas juste le bien qui est sous le contrôle de Dieu. Même ce qu'on voit de méchant, c'est sous le contrôle de Dieu. Ça a un but. Il est beaucoup plus puissant et beaucoup plus grand qu'on peut penser le Seigneur. Ici, par les méchants, il va accomplir son plan final. Il va être élevé. Et n'oubliez pas, il parle d'un type de mort. Tu vas être cloué sur du bois, élevé dans les airs, comme le serpent dans le désert. Tout était déjà dit dans la Bible. Jésus est venu parfaitement accomplir tous les symboles, toutes les images, tous les signes, tout est sur lui. Et c'est pour ça que quand il meurt le sixième jour, c'est la dernière journée de la semaine, Dieu créa en six jours. Moi, le six jours de la création, il est surtout important en fonction du sixième jour de Jésus sur la croix, parce que c'est là qu'il paye la dette. Et il rentre dans son repos à partir du coucher du soleil le vendredi soir. Il meurt. Et quand il va ressusciter dimanche, c'est le premier jour de la nouvelle création, dans l'ancienne création. Maintenant, que Dieu nous aide, encore une fois, à comprendre sa parole. Mais faites attention, encore une fois, aux concepts, aux idéaux qu'on a, qui souvent empêchent de comprendre les Écritures. Ça marche? Alors, Seigneur, quand tu touches le cœur de quelqu'un, tu le libères du prince de ce monde qui rend les intelligences enténébrées au point qu'il ne voit pas briller la splendeur de ton évangile. Mais Seigneur Jésus, Père Tout-Puissant, Saint-Esprit de Dieu qui vient maintenant appliquer l'œuvre de Christ, tu es beaucoup plus puissant car tu as dit toi-même, tu viens lier l'homme fort, tu viens juger le prince de ce monde qui a pris la place de l'homme par usurpation, tu le jettes dehors. Maintenant, il y a juste une chose qu'on peut te demander. On se remet entre tes mains afin que tu nous enseignes. Seigneur, enseigne-nous par ta parole. Saint-Esprit de Dieu, tu viens dans nos vies pour renouveler notre intelligence. Oui, je sais que tu trouves en nous beaucoup de résistance. On tient à nos idées. On est boqués. Mais tu es plus puissant que nous, Seigneur. Tu es plus fort que nous. Tu dis que même les enfants peuvent comprendre quand tu leur parles. Alors, Seigneur Dieu, parle-nous et on va marcher dans ta volonté. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, merci de continuer à verser en nous l'amour de Dieu, car c'est lui qui nous aime le premier afin que nos coupes débordent. Ce n'est pas qu'on mérite d'être aimé. Apprends-nous à recevoir de toi toujours par pure grâce ton amour, ta bonté, ta bénédiction, afin qu'on puisse aussi savoir se soutenir les uns les autres dans cette autre mentalité que celle du monde qui dit « Est-ce que tu mérites que je fasse ça pour toi? » Seigneur Dieu, ce qu'on méritait, c'était la mort éternelle. Et tu nous as traités selon ta miséricorde et ta bonté. Viens à notre secours, Seigneur. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Et merci pour ce temps qu'on a pu être ensemble aujourd'hui. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne semaine, tout le monde.